Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous et aujourd'hui avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Nicolas.
Bonjour Valérie.
Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes également éditorialiste sur Sud Radio. On vous retrouve tous les mercredis matins. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour à vous.
Bonjour Valérie.
Parti d'Éric Zemmour. Et Jacques Myard, le retour. Bonjour Jacques.
Salut et fraternité.
Salut et fraternité, maire LR de Maison Lafitte, doit-on dire LR encore? Bon, je vous taquine un petit peu. Mais
Non, mais vous pouvez y aller parce que moi je suis pour un RPR refondé.
Ah, bah vous allez nous raconter tout ça. Vous nous avez manqué parce que pendant cette campagne, on n'avait plus le droit d'inviter de politique. Vous nous avez manqué aussi, Samuel Lafont, mais vous étiez venu moins souvent. Vous êtes moins fidèle que Jacques Myard. Donc c'est vrai qu'on a pendant toute cette...
On ne peut qu'être fidèle à Valérie.
Mais c'est vrai que pendant toute cette période, il faut le dire à nos auditeurs, on n'a pas pu inviter de politique parce que c'était impossible au vu des
temps
de
parole.
Non, ça nous a manqué. Enfin, moi, Jacques Myard m'a manqué. On va évidemment parler du Rassemblement National, de Reconquête, DLR, on va parler de cette gauche unie aux législatives, des insoumis qui voudraient être tout puissants. On parle de tous ces sujets avec vous. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Jacques Myard, la guerre en Ukraine.
Oui, c'est un coup de gueule qui est un coup de gueule en forte interrogation parce que j'ai été assez frappé par le fait que la France, que Emmanuel Macron, décide de livrer des canons de 155. C'est un crescendo dans l'engagement et dans la co-belligérance. Et je m'interroge. Je comprends parfaitement qu'effectivement, on se dise, et c'est vrai, la Russie, Poutine est un agresseur, il faut aider l'autre partie. Simplement, j'ai le sentiment que chez les anglo-saxons, les Américains et notamment les Anglais, qui ont armé depuis longtemps l'Ukraine, on est prêt à se battre contre les Russes jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc, il y a là, à mon sens, un danger qui est souligné d'ailleurs par de nombreux analystes, c'est qu'on pousse à la guerre et on sait très bien qu'à la fin, il va falloir trouver une négociation. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'en réalité, en étant co-belligérants, on se coupe de la capacité, nous Français, et sans doute certains Européens, de pousser à une négociation et à la fin des hostilités pour sauver des vies humaines. Ouais. Et c'est donc une sorte de coup de gueule interrogatif. Je n'ai pas la vérité complète, mais il n'en demeure pas moins que je suis frappé par cette montée en puissance de la colo-belligérance qui va nous faire perdre une carte de négociation.
Oui, puis est-ce que c'est pas faire la guerre sans le dire d'une certaine manière?
C'est faire la guerre par procuration et c'est faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien parce que bien évidemment, ce sont ni les Américains ni les Français, je l'espère, qui sont tués.
Peut-être un commentaire, Alexis Poulain.
La réunion de tous les alliés, parce que c'est quasiment ça, à Rammstein, sur la base américaine hier en Allemagne, et clairement, le choix est de l'escalade et de la guerre totale, avec les Ukrainiens comme proxy qui vont faire la guerre. Il faut savoir qu'il y a une partie des Ukrainiens qui, eux, ne font pas la guerre, des oligarques qui sont en Pologne, qui ont privatisé des villes pour en faire des lieux de vie exotiques, avec prostituées et drogues. Les Polonais n'en peuvent plus, d'ailleurs. Et les Ukrainiens qui se font tuer sur le terrain, eux reçoivent des armes américaines. Alors, c'est plusieurs, je crois que c'est 4 milliards de dollars quasiment d'armes envoyées par les États-Unis. C'est les premiers pourvoyeurs d'armes. Ensuite, la Grande-Bretagne. Les Français, on est à 100 millions. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déjà dans une guerre mondiale avec des forces spéciales qui seraient sur le terrain. Donc, il va falloir clarifier les choses. Si on ne trouve pas un compromis et la paix rapidement, c'est une guerre mondiale et elle est déjà là.
Oui. Un mot, peut-être, Nicolas Corato.
C'est un sujet compliqué, mais je pense qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. D'abord, on n'est pas co-belligérants, en tout cas pas au sens du droit international. Et c'est vieux comme le monde, de livrer des armes à des belligérants. La France,
quand on voit la
France l'a fait, continue à le faire,
et
continue à le faire dans des conflits armés qui ont lieu. Je pense par exemple au conflit au Yémen où nous livrons des armes. Donc ça ne fait pas de nous des co-belligérants aux côtés de l'Arabie Saoudite. Et on l'a jamais dit. La deuxième chose, c'est que moi j'entends tout ce que vous dites. Le danger il vient moins de nous, les Occidentaux, que de Vladimir Poutine. Ouais. Je rappelle quand même ce qui s'est passé hier avec des tentatives de déstabilisation en Transnistrie, c'est-à-dire en Moldavie. On voit bien que Vladimir Poutine a l'occasion, voire même la vocation d'étendre le conflit, c'est pas nous qui étendons le conflit. C'est lui qui pousse le conflit encore plus loin aux portes de l'Europe. Donc il y a un moment où, effectivement, il faut que nous réagissions, et j'ai l'impression que la réaction, pour l'instant, elle reste proportionnée. On n'est pas, effectivement, aux portes de cette troisième guerre mondiale, même si le danger reste entier.
C'était une interrogation de Jack Maher, de dire, voilà, on aide, et effectivement...
Sur la co-belligérance... Désolé, il n'y a pas en droit international une réelle définition.
Non, ça n'existe pas, cette notion.
Non, attendez, vous permettez. Il est clair qu'on n'a pas envoyé une note diplomatique à la Russie pour lui dire on est en guerre contre vous, je suis bien d'accord. Simplement, ce sont des faits. Et c'est là où il y a une zone grise qui peut, comme vient de le dire Alexis, que l'on entre de facto dans un processus qui va déraper. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Je suis même très frappé que, toute proportion gardée, on retrouve l'engrenage qui a été celui de la guerre de 14-18.
Complètement.
Et c'est là où il y a un problème. Il ne faut pas se voiler la face.
Alors, en 14-18, il y avait des alliances militaires entre pays.
C'est le cessez-le-feu.
Et l'OTAN.
On n'a pas d'alliance militaire avec l'Ukraine.
Est-ce que c'est pas...
Il ne faut pas bégayer l'histoire, pardon.
Mais est-ce qu'il faut...
Vous bégayez.
Non,
aujourd'hui.
Monsieur le maire.
Est-ce qu'on ne doit pas aider les Ukrainiens aussi? Ça fait partie peut-être...
En 14-18, il y avait des traités militaires entre les différentes puissances qui ont entraîné l'entrée en guerre de toute l'Europe. Ce n'est pas le cas. La France n'a aucun traité d'assistance militaire avec l'Ukraine. Il faut dire les choses aussi, monsieur le maire, telles qu'elles sont.
Premièrement, en 14-18, ce n'était pas des traités, mais des arrangements administratifs en état-major. Et ça, il faut quand même le rappeler. Donc, on voit très bien, il n'y avait pas de traité. Il y avait, avec la Russie, c'était un arrangement administratif. Il faut le savoir. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, on se considère, on est en train d'aider l'Ukraine, dont acte. Moi, je comprends parfaitement ça. J'ai reçu des Ukrainiens, d'ailleurs, dans ma ville. Mais il est évident aujourd'hui que, de facto... On a un risque d'entrer dans un processus qui nous mène beaucoup plus loin qu'on veut.
Samuel Lafond.
Le point important, c'est celui de la co-belligérance. Et je pense que le danger actuellement, c'est que c'est toujours le même sujet, en fait, depuis le début de la guerre. Et ceux qui poussent à, en aidant les Ukrainiens, à fournir énormément d'armes et aller toujours vers plus de conflits, oublient souvent... de parler de cette idée de co-belligérance, où il la balaye du revers de la main. Sauf qu'il y a une réalité dans ça. Le deuxième point, c'est qu'on a parlé de droit international. Ce qui compte beaucoup dans la guerre actuellement, c'est l'influence et la communication. Et en fait, le droit, c'est une part du conflit. Mais la réalité, c'est que si en termes de communication, on donne l'impression d'être vraiment aux côtés de l'Ukraine, contre la Russie, et de vouloir faire la guerre à la Russie, c'est l'image qu'on en aura à l'extérieur, c'est l'image que les populations pourront s'en faire dans le monde entier. Et si on décide d'être neutre, on ne pourra pas faire les deux à la fois. C'est toujours le même sujet. Est-ce qu'on veut être neutre pour permettre aux gens de discuter et être une puissance centrale et indépendante? Ou est-ce qu'on considère qu'on doit aller davantage dans le soutien à l'Ukraine militaire? Et donc, on ne pourra plus être neutre et discuter avec les deux parties de la même manière.
Ils sont où les diplomates, vous demande Stéphane, Jacques Miard?
Ben écoutez, pour rien vous cacher, je ne suis pas toujours d'accord avec le président Macron, mais sur ce point précis, il a raison de garder un contact avec Poutine. Parce qu'il est clair qu'il faut qu'on se serve des sanctions contre la Russie qui l'affaiblissent pour lui dire, banco mon gars, si tu veux qu'on lève les sanctions, arrête cette guerre. Voilà. Et donc, c'est là, et il a raison de garder le contact. Ce qui prouve bien qu'il voit les limites. Il voit les limites de ce qu'est la politique des Anglo-Saxons et des Américains, et même de l'Ukraine. Lorsque ceux-ci ont parlé de génocide, non. Il y a des crimes de guerre, ça c'est indubitable, mais un génocide, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui dans cette guerre, qui est une guerre aussi sale. Mais il est vrai que là, il faut maintenir le contact, et il faut amener chacun à la table de négociation.
Et un auditeur me dit que vont devenir toutes ces armes qu'on envoie en Ukraine. C'est une question se posera à un moment ou à un autre. On se retrouve dans un instant avec vous pour commenter l'actualité. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour les débats de Sud Radio entre 11h et midi avec Jacques Myard, maire LR de Maison Lafitte, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et vous êtes éditorialiste sur Sud Radio tous les mercredis matins. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour vers une gauche unie aux législatives, point d'interrogation. On va en parler avec vous. Reconquête RN, une entente impossible, quid de ce qui se passe chez les RR, chez les LR, pardon, et puis Elon Musk, danger pour Twitter. On vous a posé la question déjà ce matin dans l'émission Média, vous répondez non majoritairement, mais on va en débattre ensemble. On continue notre tour de table, Nicolas Corato, ça concerne la santé.
Oui, ça concerne les EHPAD, c'était pour mettre en avant peut-être parfois les ambiguïtés, les paradoxes ou les contradictions de l'action publique. Vous savez qu'on a vécu un grand scandale avec le scandale Orpea, et puis d'autres enseignes d'ailleurs qui géraient et qui gèrent toujours des EHPAD, et la ministre en charge des EHPAD avait déclaré qu'elle souhaitait que dans les 2 ans à venir, les 7500 établissements EHPAD en France soient inspectés par des inspecteurs autorisés, qui sont les inspecteurs des ARS, les autorités régionales de santé. Eh bien, il se trouve que la même ministre a fait passer un décret, là, demandant désormais que pour visiter les chambres des résidents dans les EHPAD, les inspecteurs, ces mêmes inspecteurs, doivent recueillir le consentement écrit de chacun des résidents. Ce qui fait, vous l'imaginez, que la plupart de ces résidents étant sous tutelle, il faut aller contacter le tuteur, etc. Donc ça part d'un bon sentiment ou d'une bonne politique, c'est-à-dire dire on peut préserver l'intimité des résidents, mais si l'objectif de santé publique et l'objectif d'action publique, c'est effectivement de contrôler la maltraitance dans les EHPAD, il faut pouvoir rentrer dans les chambres, parce que c'est souvent dans les chambres que ça se passe, ou dans les chambres, disent les inspecteurs, qu'on trouve les preuves de la maltraitance de nos aînés. Donc, je trouve quand même assez dingue que notre administration continue à créer de la norme qui est contradictoire. C'est-à-dire cette volonté d'inspecter et puis cette incapacité pour les inspecteurs à pénétrer dans les chambres, sauf à avoir effectivement ce sauf-conduit. Je rajoute que depuis 6 ans, les inspecteurs ont décru, le nombre d'inspecteurs a décru de 28%. Ils sont plus que 600 et quelques aujourd'hui. Donc 600 inspecteurs pour visiter 7500 établissements en 2 ans. On voit bien que l'objectif ne sera pas atteint et que peut-être que nous aurons de nouveaux scandales du type Orpea dans les années à venir. Voilà, je trouve que l'État produit beaucoup de normes et assez peu d'efficacité.
Mais c'est oxymore, c'est l'État oxymore.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est assez lamentable. Alexis Poulain.
Mon coup de gueule ?
Oui. Votre coup de gueule.
Ah, j'étais pas prêt. Mon coup de gueule, c'est sur le cabinet de Brigitte Macron, qui coûte chaque année environ 440 000 euros, 500 000 euros. Et vous savez qu'il n'y a pas de poste de première dame en France. Eh bien, on apprend que ce cabinet est entré dans la danse pour prévenir le rectorat et faire une inspection express d'un enseignant du Bas-Rhin qui était trop critique vis-à-vis de Jean-Michel Blanquer. Les enseignants commencent à en avoir un peu marre de ce genre de mélange des genres, puisqu'il n'y a pas à avoir une première dame qui s'occupe des affaires de l'éducation nationale, éventuellement le ministre, et encore, on se rappelle du pas de vague, la difficulté qu'ont les enseignants à se faire écouter, puis surtout on se rappelle de Samuel Paty, qui lui n'a pas eu les services du rectorat et qui a fini assassiné par un terroriste. La famille d'ailleurs de Samuel Paty porte plainte contre la République et le ministère de l'Éducation nationale notamment, et le ministère de l'Intérieur. Là que Brigitte Macron et ses services aient du temps pour demander au rectorat d'inspecter un enseignant qui aurait été critique vis-à-vis de Jean-Michel Blanquer, on n'est plus du tout en démocratie.
Oui, mais
on n'est plus du tout. C'est quelque chose de la monarchie, de l'ancien régime. C'est la reine qui décide et qui dit ce Manant a osé dire du mal de Jean-Michel, de la cour du roi. Vite, faites-le bastonner et qu'on n'en parle plus, quoi. Enfin, pas bastonner, c'est une inspection. Mais c'est dingue, on ne peut pas accepter ça. Donc j'espère que très vite, les syndicats de l'éducation nationale vont se lever, qu'il va se passer quelque chose. Bon, il y a beaucoup d'enseignants qui ont l'impression qu'il ne se passe rien, malheureusement. On a parlé de revalorisation des salaires, on a parlé un peu d'enseignement dans cette campagne. Mais ça commence fort, je trouve, ce deuxième quinquennat avec ce genre de pratiques qui sont inacceptables dans un cadre d'état de droit.
Donc
Oui, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Alexis, c'est quand vous dites Brigitte Macron et ses services. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on a tous intégré que c'était institutionnalisé. Or,
ça ne l'est pas.
La première dame n'existe pas.
Mais elle a toujours existé.
Elle ne devrait pas exister.
Voilà.
Ni politiquement, ni administrativement. Ça n'est pas un personnage de l'État. Elle n'a aucun rôle, ni politique, ni fonctionnel. Et je trouve que la tendance de ces dernières années à l'institutionnaliser est une tendance scandaleuse. Nous n'élisons pas un couple à l'Élysée, nous élisons un président de la République. Et c'est déjà beaucoup.
Il faut voir les déclarations de Brigitte Macron le soir de la réélection d'Emmanuel Macron, où elle remercie les Français de leur confiance, de la charge dont elle est très fière. Elle est élue dans sa tête. Non mais c'est grave. Non mais c'est pathologique. Il y a un truc qui va pas.
Mais est-ce que de facto, elle ne va pas s'enfermer dans une pièce? Elle vit avec le président de la République.
La vie privée du président de la République, c'est son affaire. Ouais. Et moi, je pense qu'on la met beaucoup trop en avant. Et les médias, y compris, jouent finalement ce jeu.
Vous n'avez pas ça avec le chancelier allemand. Le mari d'Angela Merkel n'avait aucun rôle et ça ne pose aucun problème.
Il y a une véritable différence. Parce que, par exemple, Bernadette Chirac, on parlait beaucoup d'associatifs. Ouais. Mais là, clairement, on va vers une institutionnalisation du rôle de première dame qui est expert en France. Et j'ai envie de rappeler à tous les Français qui nous écoutent que c'est avec leurs impôts que ça se fait.
Mmh.
Et
oui.
Et en fait, on a l'impression qu'elle est libre de dépenser l'argent des Français comme elle le souhaite. Et comme le disait Alexis Poulin à l'instant, on a l'impression qu'elle se sent élue. Non, Brigitte Macron n'a pas été élue par les Français.
Mais quand vous avez Jupiter, quand vous avez Jupiter, vous avez Junon. voilà, c'est aussi simple que ça.
Alors on va voir ce que ça va donner. C'est Mediapart qui a sorti cette information.
Absolument.
Donc on va suivre avec.
Mais là, vous avez déjà les enseignants qui lancent des SOS Brigitte sur Twitter pour qu'elle puisse entrer dans la danse aussi et envoyer ses services auprès des rectorats pour rectifier ce qui ne va pas dans leur classe.
En fait, il avait publié des tweets critiques envers le ministre de l'Éducation nationale. Oh. Ça me paraît tellement énorme.
Plus c'est gros, plus ça passe. Mais justement, il ne faut pas que ça passe.
Mais il faut voir. Moi, j'ai pas lu le papier de Mediapart, donc je voudrais bien le lire. Mais je ne suis pas abonnée. Est-ce que je peux faire un petit coup de gueule avant de vous donner la parole?
C'est pas cher.
J'ai découvert ça ce matin. Donc, vous savez que le Festival de Cannes a trouvé son président, la personne de Vincent Lindon. Et donc, parmi les jurés, on trouve le réalisateur Ladjili. Ladjili, c'est lui qui a réalisé Les Misérables. Ouais. Et Ladjili, il a été condamné quand même à 3 ans de prison, soupçon de détournement de fonds. Donc je m'étonne qu'on ne fasse pas plus de cas quand il y a des levées de boucliers sur certains. Il y a une sorte de deux poids, deux mesures. Non, je vous vois.
La culture est là, tout est pardonné.
C'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord avec Monsieur le maire.
Pas pour Polanski. Je ne vais pas défendre Roman Polanski, mais on a vu ce qui s'est passé pour Polanski. Non, quand la culture est là, ça ne passe pas toujours. Là, ça passe.
Oui,
mais qu'on choisisse quelqu'un qui a été condamné à de la prison, qui est soupçonné de malversation, je m'étonne et je trouve ça étonnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Samuel Lafond.
Ça va faire du bruit, de toute manière.
On est d'accord.
Ça va continuer à faire du bruit et je pense qu'ils ont minimisé les réactions probables. Et je pense que dans ce genre de choix... on ne se rend pas compte qu'en fait, ce n'est pas une minorité de Français qui est scandalisée, mais c'est une majorité de Français. Et clairement, il va y avoir une mobilisation contre ce choix.
Je ne sais pas si ça va mobiliser, mais en tout cas, je m'étonne, je pose une question de savoir...
On a déjà eu ça dans le passé, où des gens ont été honorés dans les Oscars, alors qu'on savait pertinemment qu'ils étaient même en garde à vue, voire en tôle.
Oui, bon, bah enfin voilà, je vous l'apprends si vous ne le saviez pas. Samuel Lafond.
Oui. C'est le en même temps permanent.
Oui, là, c'est pas le gouvernement, pour le coup,
C'est pas loin.
C'est le choix. c'est le choix qui a été fait. Donc,
c'est le gouvernement culturel.
C'est le gouvernement culturel. Voilà, c'est comme vous
voulez. Moi, c'est un coup de cœur. Alors, je sais qu'on va parler du rachat de Twitter par Elon Musk tout à l'heure. Et je pense que c'est une bonne chose, effectivement, pour la liberté d'expression, pour plein de raisons. Et d'ailleurs, quand on voit les réactions, notamment dans la presse de gauche, qui s'inquiètent du retour de la liberté d'expression sur Twitter, ça montre aux Français, aux derniers Français qui en doutaient, qu'il y a une partie des médias et de la classe politique et des militants qui sont opposés à la liberté d'expression et qui aiment à ce que la censure se propage de plus en plus dans la société. Et pourquoi je parle de liberté d'expression? Parce qu'il y a le sujet Twitter, mais moi ce que je remarque, c'est que de plus en plus chez les jeunes, je fais pas mal de formations auprès de jeunes sur la communication numérique, et en fait, j'en vois de plus en plus qui ont à peine la vingtaine, qui se battent véritablement pour la liberté d'expression, et qui refusent en fait qu'on les fasse taire, qui refusent l'absence de débat, et qui trouvent en fait insupportable, véritablement, qu'on puisse leur dire, vous avez le droit de penser, vous avez le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça, et qu'ils se rendent bien compte aussi qu'il y a un lien évident entre la liberté d'expression et la liberté de penser. Quand vous n'avez plus le droit d'exprimer une pensée, eh bien, au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à la penser. Et moi, j'ai un véritable coup de cœur pour cette jeunesse qui, en fait, est très attachée à la liberté d'expression, peut-être parce qu'elle a grandi avec Internet, peut-être parce qu'elle elle a trop subi, elle voit plus la censure autour d'elle, peut-être parce qu'elle subit aussi le wokisme, soit au lycée, soit à l'université. Mais je vois qu'en fait, le combat pour la liberté d'expression en France est plutôt en bonne voie. Et que les jeunes ne vont pas supporter en fait d'être censurés pour les années et décennies à venir.
Il y a quand même le pire qui existe sur Twitter. On voit Elon Musk qui lui a tweeté en janvier plusieurs tweets avec Hitler en photo. On peut se poser aussi la question de la limite de cette liberté d'expression.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que souvent, les censeurs nous disent « Regardez, il y a quelques cas marginaux, et du coup, il y a des sujets dont qu'on devrait ne même plus aborder. » Typiquement, mais ça a été le cas pendant longtemps. Vous savez, pendant la campagne présidentielle, on a parlé de la question du grand remplacement. Je rappelle qu'en fait, le grand remplacement, on n'avait pas le droit d'en parler pendant des années. Et en fait, on se rend compte que c'est une conséquence de l'immigration massive. Il y a des Français qui peuvent choisir de soutenir l'immigration massive. Ils peuvent le faire, c'est leur liberté. Mais ils doivent en assumer les conséquences. Si on ne peut même pas assumer les conséquences des choix de chacun, si on ne peut même pas en discuter, en fait, clairement, c'est qu'on fait le choix de la censure.
Vous savez que dans une démocratie, toute liberté a ses limites.
Mais certains préfèrent les limiter plus que d'autres.
J'ai une question pour vous. Quelles limites vous posez à la liberté d'expression?
Certainement pas les limites que veulent nous imposer. Mais certainement pas les limites.
Mais vous, quelles limites
vous posez? Mais moi, je réponds très bien. Et d'ailleurs, Elon Musk l'a répondu très bien sur Twitter.
Non, mais vous, non, mais pas Elon Musk.
Mais je vous réponds. Eh bien, la réalité, c'est que Elon Musk, en répondant sur Twitter, il disait « Moi, je suis pour les libertés d'expression. » Et en fait, qu'est-ce que c'est? Il y a liberté d'expression dans le cadre de la loi, typiquement. Et nous, ce qu'on voit concrètement, c'est qu'on a des lois de plus en plus liberticides en termes de liberté d'expression. Et qu'en fait, il y a en plus des gens au-delà de la loi.
Mais là, où est-ce que vous êtes lié? Où est-ce qu'il y a une censure aujourd'hui dans la liberté d'expression? Moi, je vous pose sincèrement la question.
Mais c'est très simple. Quand vous avez dans la loi des questions d'incitation à la haine qui sont difficiles à mesurer. Et qui ont, en fait, on sort un peu du juridique pour entrer dans le politique. Malheureusement, en fait, on a des décisions qui sont politiques, faites par des juges, sur un droit qui est flou.
Donc vous êtes pour qu'on supprime le délit d'incitation à la haine?
Écoutez, Éric Zemmour.
C'est pas le débat.
C'est le débat.
Non. Le débat, c'est la limite à la liberté d'expression. C'est comme ça que vous le posez.
C'est l'encadrement de la liberté d'expression. Et je trouve que le projet d'Elon Musk est très bon parce qu'il y a une chose dont on ne parle pas assez. Dans son projet, il y a l'authentification des personnes. C'est-à-dire nettoyer Twitter des bots. Les bots sont les premiers pourvoyeurs de fake news, de discours de haine, etc. Les faux comptes également. Avec le projet de Musk, c'est l'authentification des personnes. Donc là, on lutte contre la désinformation, on lutte avec cette idée, bien sûr, de pseudonymat, et on arrive, et lui le dit d'ailleurs, c'est la démocratie libérale, c'est quoi? C'est la censure a posteriori, avec la loi. C'est pas la censure par algorithme, a priori.
Mais moi, j'ai rien contre Elon Musk, c'est pas le sujet. Donc, vous posais la question de quelle est la limite que pose Reconquête à la liberté d'expression? J'ai toujours pas la réponse.
Ça, c'est pas le débat, on parle de Twitter.
C'est le débat que vous posez. C'est comme ça que vous l'avez posé.
Soit vous avez pas lu, soit vous avez pas suivi la campagne présidentielle, soit vous avez pas bien écouté Éric Zemmour.
Éric Zemmour a été
très clair là-dessus, c'est ce que je viens de vous exprimer. C'est que... il veut revenir, Éric Zemmour a proposé pendant la campagne présidentielle, de revenir sur des lois qui posent des actes politiques dans les tribunaux. Donc, et qui, en fait, vous empêchent de vous exprimer. Mais si vous défendez la censure, c'est votre droit.
Mais moi, je défends la liberté d'expression, qui est nécessairement limitée, malheureusement.
Je ne suis pas certain. Oui, mais vous faites peut-être partie des gens qui souhaitent limiter de plus en plus la liberté d'expression.
Vous supprimez le délit d'incitation à la haine raciale, pour lequel votre candidat a été condamné plusieurs reprises.
On va en reparler, parce que le rachat de Twitter par Elon Musk pose quand même un certain nombre de questions.
Vous devriez avoir...
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous, avec Jacques Myard, Nicolas Corato, Alexis Poulain et Samuel Lafont. Nous parlions donc du rachat par Elon Musk de Twitter, de la liberté d'expression. Vous avez 2 heures pour répondre à cette question. On n'a pas 2 heures, mais ce matin, Raphaël Enthoven disait « Il y a quelque chose de liberticide dans une liberté totale ». Jacques Myard, vous voulez réagir?
Oui, je voudrais réagir en citant, parce que ce n'est pas la première fois que la liberté d'expression est critiquée. Malraux avait dit à l'Assemblée nationale, à juste titre, avant de passer la liberté par la fenêtre, il faut y regarder à 2 fois. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez Paracel qui dit très clairement, Tout est poison, rien n'est poison, tout est affaire de mesure. Ouais. Et donc c'est un équilibre. C'est un équilibre avec cette affaire de liberté d'expression. Parce qu'effectivement, sur les réseaux, si vous avez un torrent de haine, un torrent d'appels, voire même au meurtre, comme on l'a vu dans un certain nombre de cas, ça pose un problème. Mais bien évidemment, c'est peut-être pas aux facteurs à en porter la conséquence, c'est sans doute aux tribunaux d'agir rapidement. Ça, c'est le premier point. Et je voudrais revenir également sur ce que, je dirais, notre brillant commissaire Xavier Breton, Thierry Breton, pardon, Thierry Breton, nous raconte en disant tous ces gens-là devront respecter ce que nous disons. La belle affaire, en réalité, là encore, il est comme les carabiniers, il arrive bien tard, parce que le point majeur, c'est quand on a des Google, on a des Twitter qui sont totalement dans la main des Américains. Et il faudrait quand même se poser la question un jour si on est capable d'avoir ça au niveau français et européen. C'est ça l'enjeu. Et donc, je constate une nouvelle fois que cette belle machine européenne de technocrates est à côté de la plaque.
Oui, enfin, qu'on ait ça en France, oui, on n'y est pas déjà. Et surtout, la question, c'est celle que vous évoquez, qu'évoque Thierry Breton, de dire tout le monde va obéir. Je ne vois pas où Twitter, qui est une entreprise privée, obéir à qui que ce soit.
Mais c'est le vrai sujet, Valérie, parce que pour renvoyer dos à dos mes amis gauchistes et les libertariens qui sont à cette table, Twitter, c'est une boîte privée. Il fait ce qu'il veut, Elon Musk. C'est pas un espace public, c'est pas une agora, on n'est pas dans la rue. On n'est pas dans un espace qui est normé. C'est sa boîte, c'est un média. Oui. Il en choisit. Twitter, ça n'est qu'un média. Il en choisit la ligne éditoriale. Et si demain, il veut par son algorithme favoriser telle ou telle opinion, il le fera et il aura raison de le faire puisqu'il en est propriétaire. Et
c'est là où il y a un danger. L'inverse du projet de Musk.
Alors, attendez, il ne faut pas, non plus être naïf, pardonnez-moi.
Non, mais je ne suis pas naïf.
C'est pas une question de naïveté.
Il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a des lois qui encadrent la liberté d'expression. Elles sont bien faites. Le problème, c'est que les plateformes créent leurs règles de la communauté. Donc, elles abrogent les lois, finalement, en disant, vous n'avez plus le droit de parler du vaccin, du masque, vous n'avez plus le droit de parler de certains tabous. En fait, elles créent des tabous là où les lois, en fait, encadrent la parole publique. C'est extrêmement grave. Ce qui s'est passé avec Twitter, hier, vous aviez l'avocate principale de Twitter qui pleurait en réunion. Elle est à l'origine d'une règle de la communauté de Twitter qui interdit la publication de contenus hackés. Or, souvent, des sources...
Des contenus hackés, c'est quoi ?
C'est des contenus qu'on a pris dans un ordinateur de quelqu'un. Et pendant la campagne où Biden a été élu, arrive l'ordinateur portable du fils de Joe Biden, Hunter Biden, dont le contenu est connu. On le voit sniffer du crack sur le corps d'une prostituée mineure et s'en vanter, etc. Ce contenu a été censuré par Twitter. Il était sorti non pas par un site conspirationniste, mais par le New York Times. Censuré par Twitter, selon les règles de la communauté. Là, on est dans un choix politique d'enlever quelque chose d'important.
Mais il leur appartient. On peut le condamner, mais il leur appartient.
Et donc
comme
je suis
quel
content,
journal
mais
a le choix de ne pas publier telle ou telle information.
Je suis très content qu'Elon Musk revienne sur ces principes-là qui sont contraires à la liberté d'informer.
Mais vous verrez jusqu'à quel point.
Dangereux.
Soyez pas naïf à ce point-là,
Alexis.
Naïf.
S'il achète Twitter, c'est aussi parce que Donald Trump devait lancer Truth
Social.
Donc on
pourra hacker votre ordinateur et vous montrer en train de sniffer de la coke sur le...
De toute façon,
j'ai pas de
telle
vidéo. Valérie, au risque de vous décevoir, je n'ai pas de vidéo. J'ai peut-être quelques vidéos où je bois du brouilly, des trucs comme ça, mais je ne sais pas non plus.
Je pousse à l'extrême. Passer les bornes, il n'y a plus de limite.
Mais c'est pas passer les bornes, on parle d'informations nécessaires et obligatoires. Le fils d'Hunter Biden, il est dans le scandale Burisma. Cette firme de gaz ukrainien qu'il payait $70,000 par mois parce que son fils était son père.
Revenons sur la vidéo de son nom m'échappe, qui était candidat à la mairie de Paris.
Benjamin Griveaux.
C'est de l'information ?
Bah oui.
C'est de l'information ?
Bah oui.
Bon,
c'est de l'information nulle, mais c'est de l'information. Mais c'est quelque chose qui fait partie d'une construction du réel. Il faut comprendre qui sont ces gens, comment ça se passe. Alors, il y a le respect de la vie privée, certes, mais quand on est en campagne, tous les coups bas sont permis, et il y a la liberté d'informer. Et ça, c'est important de savoir que le fils Biden était un drogué, corrompu, et qu'on a empêché un média respectable de le faire savoir. Donc, Twitter, à un moment, ça va trop loin. Et le projet de Musk, juste pour finir, c'est juste de dire, moi, je veux respecter les lois, il n'y a aucun problème. En revanche, je ne veux pas qu'on empêche la liberté de parole. Elle sera sanctionnée a posteriori. Et sur l'algorithme, il veut rendre le code de Twitter transparent, il veut le publier, pour qu'enfin, on puisse justement voir c'est quoi ce fameux algorithme. Et s'assurer qu'il n'y ait pas un algorithme qui prenne l'autre et que le discours le plus radical soit poussé devant. Et en plus, il y a cette idée de vérifier les comptes et d'être sûr que derrière chaque compte, c'est une personne et pas des bots. Et je pense que...
Attendez, Jacques Miard, il y a Samuel Lafont qui
veut réagir. En fait, on voit bien les attaques qui sont en train d'être menées contre le rachat de Twitter par Elon Musk contre Elon Musk lui-même. La première attaque, c'est de dire il faut des limites à la liberté d'expression, Elon Musk serait fou, il n'y aurait aucune limite, etc. On sait que c'est faux. La deuxième attaque, qui est intéressante, que je viens d'entendre, consiste à dire qu'en fait, il y aurait une politisation des réseaux sociaux du moment que Elon Musk rachèterait Twitter.
Mais
ça fait combien d'années qu'il y a des choix algorithmiques les réseaux sociaux ? Ça fait combien d'années qu'il y a des choses qu'on ne peut plus mettre sur Facebook ? Vous savez que sur Facebook, c'est très dur de parler d'immigration massive ? C'est très dur ou d'insécurité. Vous êtes facilement vos posts
sont supprimés. Vous avez d'autres médias pour ça. Vous rattrapez ailleurs.
Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire en fait, il y a des gens qui pendant des années ont soutenu des idioties en politique, dont ils ne veulent pas assumer les conséquences. Oui. La perte de notre identité en France à cause de l'immigration massive. Les agressions qui se multiplient.
Mais
c'est un véritable sujet. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez pas qu'on en parle. Vous défendez la censure. Et la réalité, c'est qu'effectivement, il y avait des choix avant sur certains réseaux sociaux. Facebook est beaucoup critiqué pour ça, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont... C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur Twitter. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui viendront sur Twitter parce qu'ils se rendent compte que sur Twitter, ils auront davantage de liberté d'expression.
Alors oui, on a une auditrice qui voulait réagir. Oyana, bonjour.
Bonjour. Oui, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que les réseaux sociaux sont un peu de l'ordre de la thérapie. Et en fait, les gens peuvent déverser leur trop-plein de haine, on va dire. Mais je trouve ça plutôt sain parce que ça leur permet justement de pouvoir extérioriser tout ce qu'ils ont à l'intérieur et de se sentir mieux après. Et je trouve que c'est beaucoup plus sain de le faire, par exemple, sur un réseau social que... dans la rue ou ailleurs.
Oui. Enfin, vous adressez quand même, vous déversez votre haine, comme vous dites, sur des gens, sur des personnes. Donc, c'est d'une violence inouïe pour les gens qui la reçoivent. Je pense au Covid et à ces médecins en particulier qui se sont fait insulter, menacer de mort et autres. Je ne pense pas que ce soit une chose formidable.
Oui, mais les gens qui la reçoivent, c'est parce qu'ils sont là, donc ils ont besoin d'être là, à la limite, non pas être sur les réseaux sociaux, ils sont pas prêts à entendre des choses. Pour moi, c'est ça, la liberté d'expression.
Vous êtes sur Twitter et vous vous défoulez, entre guillemets, c'est ça ?
Ah, pas du tout.
Ah non, d'accord.
Mais je suis sur Twitter, je trouve ça mieux que Facebook. Je suis pas sur Twitter depuis longtemps, et sur Facebook, je trouve qu'il y a énormément de censure. Par contre, je peux comprendre... Moi, je discute avec des personnes qui déversent cette haine et qui, petit à petit, en ont de moins en moins, parce qu'ils peuvent, justement, échanger avec d'autres. C'est mon sentiment.
Il y a le confessionnal pour ça.
Non, mais quand vous pensez à Mila, cette jeune femme qui a été... qui a porté plainte, hein, et c'est ceux qui l'ont insultée, menacée de mort, ont été punis. Jusqu'où ça va ? Jacques Miard va vous répondre. Est-ce que c'est la liberté, effectivement, la liberté d'expression ?
Qu'on le veuille ou non, les mots peuvent tuer.
Oui.
Les mots peuvent tuer. Donc il faut quand même faire très attention. C'est une histoire d'équilibre. Et ensuite, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que la liberté d'expression aux États-Unis est extrême dans de nombreux cas.
Absolument.
Vous pouvez être nazi aux États-Unis, je ne suis pas certain que vous allez tomber sous la loi. Et chez nous, en Europe, effectivement, il y a un politiquement correct qui fait que... Et je crois qu'il y a un équilibre à trouver, comme je disais tout à l'heure. Mais on ne peut pas ignorer que la haine déversée à longueur de temps sur un certain nombre de réseaux peut avoir des conséquences dramatiques.
Alors, on marque une pause et je vous donne la parole, Samuel Lafont, dans un instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous, avec Jacques Miard, Nicolas Corato, Alexis Poulain et Samuel Lafont. Donc, nous évoquons le rachat de Twitter par Elon Musk, 44 milliards de dollars. Certains ironisent en disant avec 44 milliards de dollars, on pourrait en faire des choses. Il a choisi de racheter ce réseau social en disant la liberté d'expression est le socle d'une démocratie qui fonctionne. Twitter est la place publique numérique où les sujets vitaux pour le futur de l'humanité sont débattus. Alors, Samuel Lafont, vous vouliez réagir à ce que disait notre auditrice et le débat qu'on avait sur ce défouloir qui est devenu Twitter.
Absolument. Alors moi, je pense qu'il faut toujours garder les proportions en tête. Parce que quand on entend, quand on écoute les personnes qui s'en prennent aux réseaux sociaux, on a l'impression que sur les réseaux sociaux, il n'y aurait que de la haine. Alors qu'en fait, c'est extrêmement marginal. C'est extrêmement marginal. Ce n'est pas le fait des réseaux sociaux en particulier. Moi, vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle, dans les années 90, quand on accusait les jeux vidéo de tous les maux. En fait, tous les problèmes de la société, tous les problèmes des jeunes, c'était les jeux vidéo, comme on a vu les problèmes avec la télé. À un moment, il faut arrêter de prendre un tout petit élément et en faire l'ensemble. C'est extrêmement marginal. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est une question de justice. On parlait tout à l'heure de savoir à quel moment, quelles sont les limites de liberté d'expression et à quel moment est-ce qu'on agit. Est-ce qu'on agit a priori, est-ce qu'on agit a posteriori? Le problème, c'est pas en fait qu'il y a des gens qui s'insultent sur Twitter. Le problème, c'est qu'en fait, la justice, derrière, elle agit très peu.
Quand vous avez des menaces de mort... Parce que Twitter ne donne pas ne refuse de révéler l'identité des gens.
Vous avez concrètement, quand vous avez des menaces de mort avec parfois des personnes qui sont identifiées, on parlait de la jeune Mila, avec des appels au meurtre, il faut que la justice, derrière, soit sévère. Et la justice, elle manque de sévérité, non seulement pour ces appels au meurtre sur les réseaux sociaux, mais également sur ce qui peut se passer dans la rue, ce qui peut se passer ailleurs. Et c'est un problème qui est lié à la justice et au manque de sévérité pénale. C'est pas un problème qui est lié directement aux réseaux sociaux.
Ils ont été bien condamnés.
Ça a été,
oui, elle a été très sévère.
La justice a frappé.
Oui, elle a été sévère et elle a agi rapidement. Sévère.
Peut-être qu'on peut dire une chose sur Twitter, c'est qu'on parle beaucoup de ce média. C'est quand même le média des élites, hein, parce que c'est le média des journalistes, des leaders d'opinion, des dirigeants politiques, mais c'est le plus petit des grands réseaux sociaux au monde.
Oui,
c'est rien. C'est par ailleurs un réseau social qui se ringardise très très vite. Il y a beaucoup de gens qui sortent de Twitter. Et puis, quand on regarde, vous parliez de la jeunesse, elle n'est pas sur Twitter. Les jeunes, ils sont sur TikTok, ils sont sur Insta, ils sont sur bien d'autres réseaux sociaux.
De plus en plus Twitter aussi. Hein.
Mais de moins en moins Twitter. Vous regarderez les statistiques. Donc, finalement, Elon Musk, il achète un réseau social, je dirais, de l'ancien monde. C'est déjà un peu fini, Twitter. Et on voit bien que ça tourne en boucle.
Facebook diminue, mais pas Twitter.
Twitter est un réseau social qui s'est décrédibilisé lui-même en laissant entrer des bots, comme vous le disiez, en laissant finalement une partie de la frange la plus extrême de la population déverser des tombereaux d'injures et d'ordures, et que finalement, au final, les gens un peu sensés sont partis de ce réseau social. Donc Elon Musk, il rachète une poubelle, pardonnez-moi de le dire, en termes de débat public.
Juste objectivement, c'est complètement faux.
Ah bon, mais regardez l'état de Twitter.
En fait, c'est très simple.
Regardez l'état des débats sur Twitter.
Mais je sais très bien, vous n'allez pas m'apprendre comment ça se passe sur Twitter.
Vous commencez par dire que
Twitter est un réseau élitiste pour finir par dire que c'est une poubelle.
Oui, mais c'est une poubelle qui reste intéressante
sur le fond.
Certaines élites qui ont compris encore.
Comment sur Twitter, en fait, avoir des journalistes.
Sur Twitter, vous avez fait 7% d'élections, ça montre bien que ça marche pas.
Ils n'étaient pas nombreux à faire plus de 5 aux élections.
Alors, premièrement, je vais vous répondre là-dessus.
Samuel Lafont.
C'est un compliment de ma part. Vous avez été excellent sur Twitter, mais vous êtes trompé de stratégie. Les électeurs ne sont pas sur Twitter.
Là où vous vous trompez, en fait, c'est qu'en stratégie numérique, c'est pour ça qu'on a été meilleurs que les autres, comme Macron et que la gauche, parce qu'en fait, stratégie numérique, c'est pas juste Twitter, en fait. En fait, la stratégie numérique, je vous explique. Non, mais je vais expliquer.
Vous avez bien beaucoup. La stratégie numérique n'a servi à rien. Vous avez fait 7%.
Mais vous vous trompez complètement. Expliquer.
Ah bon, vous n'avez pas fait 7%.
On a fait la création de contenu, la mobilisation sur les réseaux sociaux, les sites, vous savez, on avait des sites, l'emailing et la gestion des contacts. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a avec Reconquête? On a la plus grande base de contacts.
Faites pas votre bilan, c'est 7% aux élections.
On a la plus grande base de contacts en France.
Très bien, mais vous faites 7%, ça ne sert à rien.
On a tout un ensemble de militants sur l'ensemble du terrain.
Mais ça ne sert à rien, vous faites 7%
dans
les urnes.
Vous êtes court-termiste, mais nous on voit sur le long terme.
D'accord.
Et oui, effectivement. On a 123 000 adhérents aujourd'hui. On a de très nombreux donateurs. On a des gens qui sont dans tous les départements de France. Donc on a une force de frappe qui est sans précédent. Voilà, alors ça simplement, je vous explique qu'il y a une différence entre la stratégie numérique et Twitter.
C'est un élément dans les... Ça montre bien que l'influence des réseaux sociaux est très relative.
Vous vous trompez.
Ah bah écoutez, vous trompez.
Mais comment vous expliquez le 7%, effectivement, qu'est-ce que vous répondez?
Il y a beaucoup de votes utiles. Utile, mais en fait, quand j'entends des gens m'expliquer qu'il y a des erreurs, que la stratégie numérique ne sert pas à grand chose et qu'ils parlent stratégie numérique en parlant Twitter, moi je leur rappelle l'ensemble. En fait, et c'est ça qui a manqué en fait à nos concurrents, et je vois qu'il manque encore, et tant mieux pour la reconquête, c'est qu'en fait, vous pouvez pas vous savez, vous avez stratégie, tactique, action. Si vous parlez d'une stratégie en parlant juste d'une action, vous vous trompez sur l'ensemble. C'est pas bien grave, tant mieux, nous ça nous a profité, c'est pour ça qu'on a été en quelques mois largement meilleurs que les autres, qu'on a dépassé Jean-Luc Mélenchon et qu'on a dépassé alors qu'il était le plus gros candidat là-dessus et qu'on a dépassé largement tous les autres.
Ouais. Bon, on va. Je voudrais qu'on change.
Mais les clics font pas des votes.
Je voudrais qu'on parle un peu de politique, peut-être Jacques Myard.
On parle de politique.
Oui, oui, on parle de politique. Absolument. Non, non, mais de cuisine. Alors, on va rentrer dans les cuisines. Jacques Myard, LR, vous en pensez quoi de ce qui est en train de se passer?
Écoutez,
avec
LR a subi un échec patent. Hein, il ne s'agit pas de nier la réalité, mais pour autant, il y a encore parmi les adhérents d'LR et dans les élus d'LR des gens qui peuvent encore apporter beaucoup au débat public. Et ma position, elle est simple, c'est que je suis intimement convaincu que LR a perdu une ligne politique claire et qu'il faut la retrouver. Mmh. Et cette ligne politique, pour moi, ça passe par un parti auquel j'ai adhéré, qui était le Rassemblement pour la République, qui avait une idéologie, qui avait surtout une ligne politique claire et qui s'est perdu dans les méandres du centre lorsque Chirac a voulu être élu président de la République et qu'on a rejoint à ce moment l'UDF. Et l'UDF a pris le pas en matière idéologique sur ce qui a été l'UMP et aujourd'hui les LR. Mmh. Donc pour recréer une force républicaine forte qui puisse dialoguer avec tout le monde, mais qui puisse avoir un socle électoral fort, il faut recréer un RPR fort et sans bavure. Et s'il y en a qui veulent pas adhérer à ce RPR, libre à eux. S'ils sont centristes, eh bien qu'ils partent. S'ils sont macronistes, ils sont déjà en partie partis, mais ils verront que, à mon avis, l'échec programmé de la politique de Macron, en raison de son électorat très hétéroclite, en raison de son oxymore permanent et de ses contradictions, eh bien, ils en reviendront assez rapidement et ça risque de se passer aussi, malheureusement, dans la rue.
Alors, comment ça va cohabiter tout ça avec le Rassemblement national, Reconquête est-ce qu'il y a de la place pour un parti de droite?
Vous savez, les électeurs sont beaucoup plus intelligents dans les choix politiques que parfois les appareils. Donc, c'est deux choses l'une. Ou ce RPR reconstitue une base forte de l'électorat. Et puis, ils verront bien comment ça se passe avec, je dirais, des autres électeurs qui sont partis ailleurs. Mais ça se passera dans le moyen et le long terme. Donc, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il s'agit d'être efficace sur le terrain. Et donc, je pense qu'il pourra y avoir, des ententes, c'est clair. Mais ces ententes se feront sur des choix politiques clairs, en toute responsabilité. Donc, je ne crois pas aux ostracismes aujourd'hui que l'on entend dans certaines personnes qui sont au LR en disant « jamais ça, jamais je ne boirai de ton eau ». Le problème, ce sont les choix politiques, c'est le projet politique qui primera avec des hommes crédibles. Et
pour
et
l'instant,
des femmes crédibles.
Pour l'instant, il n'est pas très très clair,
oui,
Valérie, Samuel Lafon.
Il y a un mot important qui vient d'être prononcé, c'est le mot efficacité. Et j'ai envie de dire que malheureusement pour les Républicains, c'est tout l'inverse de ce qu'ils ont fait dans leur campagne. On parlait tout à l'heure de stratégie numérique, le but c'était d'être efficace sur Internet, on a été efficace, et en fait sur le terrain derrière il y a plein d'actions qu'on peut mener, avec du porte-à-porte et du tractage, on sait que ça marche. Il faut bien gérer les fédérations. Moi ce que je vois c'est que non seulement effectivement il n'y a plus de ligne claire chez les Républicains, mais qu'en plus le grand parti de droite, le grand parti populaire qui est en train de se créer, c'est Reconquête. Je vois des moqueurs dire qu'on fait 7%, mais non seulement je rappelle qu'il y a eu plusieurs vagues de votes utiles, mais qu'en plus de ça on a largement dépassé les Républicains, le PS, Europe Écologie Les Verts, le PCF, en à peine un an. En fait, le grand parti qui est en train de se construire, le grand mouvement populaire, c'est Reconquête. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après le premier tour, et après le second tour, on continue à avoir des centaines d'adhésions, tous les jours. Le parti est en train de se construire, on n'est qu'au tout début de l'aventure de Reconquête.
Bon, qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez,
voilà. J'attends de voir le nombre d'élus qui auront
les soyez enthousiastes,
oui,
mais
Jacques Myard.
Sachez une chose, il n'y a de politique qu'à long terme. Donc on peut faire des coups, mais ça ne suffit pas.
Mais c'est ce que je vous dis.
Il faut s'inscrire effectivement dans le paysage, et c'est la raison pour laquelle, moi personnellement, je voudrais vous dire au passage, j'ai été réélu une sixième fois en tant que maire contre une camarilla de nuls, mais il n'en demeure pas moins, la cohérence politique, c'est ce qui prime en politique.
Ouais.
Et donc c'est sur ce point précis que je veux me battre, et je pense que nous avons un choix à faire. Moi, je ne dis pas Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Pour la bonne et simple raison qu'il y aura sans doute des alliances qui se noueront.
Oui.
Il faut qu'elles soient dans la clarté et dans le respect des uns et des autres. Et je suis intimement convaincu qu'un RPR fort, refondé avec des gens, j'en connais quelques-uns, qui ont, je dirais, des idées claires dans leur tête, c'est jouable.
Oui, on verra ce que disait Alexis Poulain. C'est aussi aux législatives qu'on va voir ce qui va se passer. Dans les projections qui ont été faites par Harris,
on est bien d'accord.
On voit que LR est derrière le Rassemblement national.
Ça va être très dur. Ça va être très dur, les prochaines législatives, parce qu'effectivement, il y a ces ambiguïtés qui ont été soulignées par nombre d'experts et qui sont visibles par tous les Français.
Tu penses qu'il y aura trois blocs ? Il y aura un bloc macroniste, bloc LFI et il y aura un bloc du camp national s'il y a des alliances.
Je suis moins concerné en tant que sympathisant, mais en tant que citoyen, je le suis tout autant. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui d'être républicain dans les deux sens du terme, c'est-à-dire adhérent de ce parti et puis républicain au sens premier. Et que j'entends ce que dit Monsieur le maire, mais il y a une différence entre être un conservateur, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, et un réactionnaire. Et il y a un moment ou un autre, il va falloir aussi se poser politiquement la question de ce genre d'alliance, de la carpe et du lapin, et l'assumer. Mais alors à ce moment-là, il faudra l'assumer politiquement.
C'est grâce à la réaction qu'on avance. N'oubliez jamais ça.
Oui.
Alexis.
Eh oui, c'est un problème dynamique.
C'est
un problème de dynamique,
c'est vrai.
Non, mais aujourd'hui, les Français attendent d'un certain nombre d'élus des choix clairs, un projet clair, et qu'ils le défendent. Voilà.
Vous feriez le choix de Zemmour, monsieur le maire ?
Mais non, je ne fais pas le choix d'un tel ou d'un tel. Je viens de vous dire qu'il y a la possibilité de recréer un Rassemblement pour la République avec des idées claires et qui se battra conformément à ses convictions.
Ouais. Moi, je pense que les partis traditionnels, LR, PS, vivent des moments difficiles. Et qu'en revanche, ils ne vont pas faire la même erreur qu'en 2017 après l'élection d'Emmanuel Macron, où ils ont pensé que ce serait business as usual et qu'ils pourraient survivre. Je crois que là, il y aura une recomposition politique qui se joue dès à présent, massive, pour justement créer des oppositions concrètes face à la Macronie. Ce qu'a construit Emmanuel Macron, parce qu'il, lui, a réussi à s'ancrer finalement.
Ouais.
Là où il a un parti qui n'existe pas, territorialement, pas du tout. Mais,
il n'existe que par lui-même.
Mais il existe, il est là, c'est lui le président. Il est réélu.
Et donc,
les partis, aujourd'hui, la seule erreur qu'ils ne doivent pas refaire, c'est l'éparpillement. C'est aussi de jouer les cigales, de simplement chanter tout l'été et d'attendre la prochaine élection en ne travaillant pas. Donc, tous les partis, aujourd'hui, ont intérêt à se parler. Ce que fait la France Insoumise avec le PS, c'est très bien et c'est normal. Maintenant, LR va devoir parler à Reconquête, au Rassemblement National et arrêter avec des pudeurs de gazelle parce que sinon, il ne se passera rien.
Quelle est votre position à vous, Samuel Lafond ? Marine Le Pen, vous avez opposé une fin de non-recevoir.
Non, mais elle est très simple, notre position. Depuis des semaines, Éric Zemmour appelle à l'Union nationale.
Oui, enfin, lui tapant dessus le soir de l'élection.
Il appelle à l'Union nationale. Il rappelle que malheureusement, d'ailleurs, il avait appelé à voter pour elle, que malheureusement, elle a perdu. En revanche, on est très clair. On sait que si on y va de manière éparpillée, il n'y aura que quelques députés pour le camp national. En revanche, si on décide d'avoir des alliances intelligentes entre Reconquête, le Rassemblement national, Debout la France et des LR patriotes, on peut peser, on peut être le troisième bloc. Les deux premiers blocs sont le bloc macroniste et le bloc LFI qui est en train de se construire autour de Jean-Luc Mélenchon. Si on part éparpillé, on est sûr, c'est mathématique, avec le système de scrutin actuel.
Mais vous comprenez qu'ils n'aient pas forcément envie de s'allier à Reconquête.
Mais moi je leur dis, on le sait en fait, s'il n'y a pas d'alliance, ils vont avoir que quelques députés, alors qu'en fait le Rassemblement National a été au second tour de l'élection présidentielle et a eu plus de 40% des voix. Donc en fait ce serait bête de pendant 5 ans de ne pas bénéficier d'un contre-pouvoir important à Emmanuel Macron. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est de ne pas laisser justement les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Et il faut juste avoir l'intelligence de faire des alliances. Le passé, c'est le passé. Il faut pouvoir discuter. Et
dimanche soir, vous ne trouvez pas que c'est une erreur ce qu'il a fait, Éric Zemmour, dans son discours
honnêtement.
Il l'a traité de nul, en gros.
Clairement pas.
Éric Zemmour ne fait jamais d'erreur.
Clairement pas. Non, c'est pas ça.
On est vraiment dans un nouveau parti.
Non, c'est pas ça.
Reconquête, c'est un nouveau parti.
Le sujet, c'est qu'en fait, on a une toute petite partie du discours. Si vous regardez les communications qui ont été faites pendant l'entre-deux tours, les communications de Nicolas Bay, de Guillaume Pelletier, de Marion Maréchal, qui appellent à l'Union, elles sont très claires. Nous, on tend la main pour faire en sorte d'avoir des victoires dans un maximum de circonscriptions en France. Parce que sinon, si on ne le fait pas maintenant, pendant 5 ans, on va s'en mordre les doigts. Ouais. Et un autre sujet qui est important, ce que disait Alexis Poulain à l'instant, c'est que soit on fait des cigales, ce qu'on fait beaucoup de partis politiques, malheureusement,
2017,
les Républicains et le PS, soit on considère qu'il faut agir. Et en fait, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, qu'est-ce que vous faites de votre parti politique ? Est-ce que vous attendez les prochaines élections ? Ou est-ce que vous essayez de trouver des nouveaux relais locaux ? Est-ce que vous préparez les élections
municipales ? Vous en avez ?
Est-ce que, complètement.
Parce que certains auditeurs nous disent le RN est plus implanté que vous. Un autre nous dit... je ne sais plus, j'ai perdu le
fond. En termes de dynamique, le RN est... L'erreur ce serait une alliance entre des appareils. Ça ne fonctionnera pas.
Non, mais on le verra. Bon. En fait, ce qui se passe, c'est concrètement, les gens discutent dans les départements.
Ça ne fonctionnera pas. Il ne faut pas croire que ça va marcher de cette manière. C'est une question de crédibilité, de projet et de cohérence dans la durée. Peut-être, effectivement, qu'aujourd'hui, tous les partis anciens comme le vôtre, etc., vont se prendre une gamelle parce que, à mon avis, Macron fera passer un maximum de députés LRM. Bon, mais il n'en demeure pas moins que le chemin ne s'arrête pas à cette élection et qu'une élection en cache toujours une autre. Ouais. Donc, c'est une question de travail et de cohérence dans la durée.
Allez, on marque une pause, on va parler de la gauche. Tiens, le retour de Gérard Filoche sur Twitter qui répond à notre question. Une gauche unie, c'est possible. Il dit s'il y a un seul candidat de gauche par circonscription dans 400 cas sur 577, il sera en tête le 12 juin.
Voilà. S'il connaît Gérard Filoche.
À mon avis,
il prend ses désirs pour des non-réalités.
Allez, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Parlons de la gauche, parlons de LFI, du PS vers une gauche unie. Est-ce que vous y croyez ? Des discussions se poursuivent à gauche pour créer une union en vue des élections législatives. Des discussions un peu compliquées, a avoué Manuel Bompard ce matin. Le PS quasiment inexistant, peut-être Nicolas Corato. On aura pitié de rappeler le score d'Anne Hidalgo.
Aucun souci avec le score d'Anne Hidalgo, 1,70%, une des plus mauvaises campagnes qui ait jamais donné lieu. Non, peut-être qu'on peut trouver en creusant, mais il faut creuser profond. Je dirais qu'à gauche, la situation, elle est finalement, paradoxalement, beaucoup plus simple qu'à droite, dans le sens où la gauche a identifié une majorité de droite, celle que porte Emmanuel Macron, et un projet de droite. Et donc, elle se clarifie complètement dans l'opposition. De toute façon, tous les autres sont déjà partis, ou étaient déjà partis. Donc, elle bénéficie au moins de 5 ans de retour. Et puis surtout, la présidentielle a clarifié les positions et les rapports de force à gauche. Donc, la gauche veut se réunir sous l'hégémonie de la France insoumise. Et c'est la France insoumise qui mène le bal. Je ne suis pas persuadé, malgré la difficulté des négociations, et c'est normal qu'elles soient difficiles, que finalement, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts aient beaucoup le choix. Notamment le Parti Socialiste qui joue énormément, qui joue très gros. Hein. Le Parti Socialiste sans groupe à l'Assemblée Nationale, c'est la fin du parti, c'est la clé sous la porte. Ils peuvent vendre leur siège, il n'y a plus rien qui tiendra.
Il n'y aura plus rien.
Et derrière partiront tout seuls les élus locaux, les régions, les départements, les grandes mairies. On voit bien que le château de cartes s'effondrerait d'un coup. Donc ce qui se joue pour le PS et Europe Écologie Les Verts, ça n'est rien de moins que leur avenir pour les 10 ans à venir. Donc tout le monde a intérêt de s'entendre. Il se trouve que c'est Jean-Luc Mélenchon, l'enfant terrible de la gauche, qui prend sa revanche sur le PS et qu'effectivement, ça doit être difficile à vivre pour beaucoup de cadres du Parti Socialiste. Oui. Mais il va falloir aussi regarder la réalité en face. Mais en tout cas, la gauche...
LFI et PS n'ont rien à voir ensemble.
Sur 90% des mesures... Allez, on va dire que c'est la gauche du PS qui prend le pouvoir, mais Jean-Luc Mélenchon ne vient pas du Parti Socialiste rien.
On a une auditrice qui voulait réagir. Sandrine, et puis je vous donne la parole. Sandrine, qui nous appelle du Gers, qui attend depuis un petit moment. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour. Oui, donc, on vous écoute.
Écoutez, moi je pense que nos partis traditionnels sont morts. Je pense que LR, ils se sont enterrés. Je pense que le PS s'est enterré aussi. Et je pense qu'on va peut-être s'orienter davantage vers le Parti communiste aujourd'hui, parce que Mélenchon avec LFI, c'est un despote, on voit bien ses réactions démesurées, disproportionnées. Fabien Roussel est quand même vachement plus posé, donc je crois que ce garçon va faire beaucoup de bruit dans le paysage politique dans les années à venir. On est en train de partir vers les extrêmes, et là ça fout les jetons quand même. Moi j'habite dans le Gers, quand vous voyez les scores qui étaient au second tour, vous vous dites waouh quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé chez vous ?
Ah ben Marine Le Pen était largement devant partout, souvent dans beaucoup de petits villages.
Oui, bien sûr. Oui, ça a été le cas dans beaucoup de.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous, on paye le litre de gasoil 2 euros. On n'a pas d'autre choix que de prendre nos véhicules pour aller travailler. Moi, je travaille à 16 km de chez moi. qui commence à 6h45 le matin, j'ai pas de transport en commun. Ouais. On a le TER qui arrive à Auch pour aller à Agen, il n'y a même plus de bus parce que le TER est en retard. Vous voyez ?
Ouais, c'est ça.
C'est ça la réalité. C'est ça la réalité des territoires. Et aujourd'hui, on n'est pas entendu. Alors moi, ça me fait rire quand j'entends Emmanuel Macron a une base solide. Il a une base que dalle, ce mec. Il a été élu parce que les gens ont voté contre lui, mais pas pour lui.
Ouais.
Il a rien du tout. Il a rien du tout. Et puis, et puis aussi son histoire de vie, toutes ces choses-là. Ce garçon, il est hors réalité. Il a dit lui-même, il a été élevé par des enseignants, quoi. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Merci de votre témoignage, Alexis.
Moi, j'ai un conseil à donner au parti, et c'est un conseil qui est moins cher que ceux de McKinsey, c'est de surtout pas rentrer dans ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire un jeu de boutiquier, de rentier, où on va se partager des circos. Non, aujourd'hui, la refondation politique a un rôle important, c'est de porter la voix des perdants, porter la voix de ceux qui ont perdu dans cette élection. Et ils sont nombreux. Et ce n'est pas seulement ceux qui ont mis un bulletin Marine Le Pen, c'est ceux qui n'ont pas voté, c'est ceux qui ont fait les castors encore une fois, c'est tous les perdants aujourd'hui, tous les gens de cette France périphérique qu'on vient d'entendre, qui voient les services publics disparaître, qui voient l'hôpital s'effondrer, qui voient l'école et la mairie aller de plus en plus loin, qui voient la sécurité être toujours un problème. Il faut représenter cette France-là maintenant, parce qu'Emmanuel Macron ne représente rien à part Saint-Germain, peut-être un peu, et quelques oligarques.
Il a gagné l'élection.
Avec un jeu démocratique en démocratie faible. Valérie, aujourd'hui, si on continue à faire le jeu de la chaise musicale entre amis parce qu'on veut une rente et on veut continuer d'être entier, croyez-moi, le retour de bâton va être sévère. Le rôle du politique aujourd'hui, c'est de représenter les perdants.
Oui, alors ce que dit Alexis est frappé au coin du bon sens. Parce que je suis intimement... Il est élu. Il ne faut pas quereller. C'est illégitime, etc. Il est mal élu. Non, il est élu. En revanche, les problèmes de la France sont toujours là.
Ouais.
Et là, c'est là où sa politique va être extrêmement difficile. Parce qu'il a en tête des choix qui sont à l'opposé de la solution des problèmes des Français. Voilà, c'est aussi simple que cela. Il va y avoir un problème sur la retraite, alors qu'il faudrait relancer, par exemple, une politique familiale et de natalité pour équilibrer à terme. Hein, il va avoir un problème de pouvoir d'achat, mais comme on sanctionne les Russes à outrance, on va payer le gaz extrêmement cher dans 6 mois. Bref, il y a un ensemble d'incohérences politiques qui font que ça va être extrêmement difficile pour le prochain gouvernement. Et ça risque effectivement de provoquer des réactions brutales.
Ouais.
Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'il faut s'occuper des problèmes français et pas simplement, je dirais, d'une victoire qui est là, mais qui n'est pas à la hauteur des enjeux.
Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon ferait mieux ? Est-ce que Marine Le Pen ? Mélenchon
sera confronté aux mêmes difficultés.
Tous, ils seront confrontés à ces difficultés-là.
Le premier, avant d'agir, c'est être capable d'écouter. Et effectivement, on sait déjà, parce qu'on en a subi pendant 5 ans, qu'Emmanuel Macron est incapable d'écouter les problèmes des Français. On écoutait Sandrine à l'instant. Soit on écoute Sandrine qui nous dit 2 euros le litre, c'est extrêmement cher, le pouvoir d'achat s'effondre, je dois faire des choix budgétaires que je n'avais pas à faire auparavant, et en fait, je ne vois pas l'avenir de manière positive pour moi et mes enfants. Soit on l'écoute, on le comprend et on traite le problème. Soit on ne l'écoute pas, on minimise et on balaye ça du revers de la main comme ça a été fait. Et c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron a eu les gilets jaunes face à lui. C'est parce qu'à un moment, il a montré à tous... qui ne souhaitaient pas les entendre. Et en fait, il y a des Français qui vraiment comptent tous les mois, qui comptent toutes les semaines, parce qu'en fait, leur voie d'achat s'effondre, qui en ont assez de subir l'insécurité aussi. Et on ne peut pas leur dire « Non, mais c'est pas grave, ça ira mieux. » Non, en fait, il faut des résultats rapidement. Mais tout d'abord, il faut être capable d'entendre les Français.
Et peut-être que pour revenir sur ce que disait Alexis, il faut peut-être préciser que ce qui se passe à gauche en ce moment, c'est-à-dire que les discussions commencent non pas sur quelle circonscription pour qui, mais sur le programme commun.
Le programme,
et la France Insoumise veut que le Parti Socialiste et Europe Écologie des Verts s'engagent par exemple sur le blocage des prix. C'est un sujet majeur.
C'est important.
Sur la planification écologique, c'est un sujet majeur. Sur la réforme institutionnelle, c'est-à-dire que c'est une fois que cet accord aura été obtenu de la part des partis, on commencera à regarder quelles sont les circonscriptions qui vont à qui. Mais effectivement, je suis d'accord, le vrai sujet pour la gauche aujourd'hui, c'est de définir un projet de contre-gouvernement par rapport au projet d'Emmanuel Macron.
Oui, sauf qu'aujourd'hui...
C'est la quadrature du cercle.
Oui, c'est la quadrature du cercle.
Il faut bien commencer par le projet.
Le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut comme France demain. Qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite. Mais il faut clairement avoir un projet. C'est comme ça qu'on fera en sorte qu'il y ait un maximum de Français qui se déplacent, parce qu'ils diront, là, enfin, j'y crois. Et moi, je reviens sur le programme d'Éric Zemmour. J'invite tout le monde à aller sur son site ericzemmour.fr pour aller voir le programme qui est encore en ligne. Ouais. Mais en fait, verrez qu'il y a une vision. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais on voit les grands ensembles, on voit ce qui est prioritaire, on voit les combats à mener tout de suite après les élections.
Mais vous avez fait 7%, comme l'a dit Nicolas.
Mais au moins, c'est clair. On fait 7% en moins d'un an. Si vous regardez ce qui se passe dans le reste de l'Europe, il n'y a aucun mouvement qui s'est créé aussi rapidement et qui a battu des mouvements qui étaient censés être ancrés.
Il y a Emmanuel Macron.
Qui était censé être ancré un peu partout. Oui, Macron, c'est un peu différent, avec beaucoup de récupération sur le Parti Socialiste.
C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. On se retrouve demain. Très bonne journée, cher Jacques Myard, à vous et à tous nos auditeurs. Très bonne journée sur Sud Radio.